Donc ce thème de plaisir et satisfaction, sur le coup, bon, je me suis dit je vais intervenir, mais je savais pas vraiment ce que j'allais dire, ni ça me branchait pas particulièrement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc fondamental. C'est extrêmement intéressant. Alors, ceci dit, ce que je vais vous dire, c'est juste un angle. Évidemment qu'il y a des tas d'autres angles possibles et qu'on pourrait en discuter de plein de façons. Mais malgré tout, sous un certain angle, vous allez voir quelle est ma thèse et pourquoi ça s'appelle le titre « La tristesse des condamnés au plaisir ». Alors d'abord, ça vous a déjà été dit par les précédents, mais on va revenir quand même sur la mise en place de la tresse de base, les quatre fils qui constituent le lien entre le plaisir et la satisfaction et qui permettent d'être vraiment dans quelque chose de bon. Freud, bien sûr, dans les trois essais sur la théorie sexuelle, c'est-à-dire avant le tournant 1920, avant la répétition, écrit « Lorsqu'on voit un enfant rassasié quitter le sein, en se laissant choir en arrière et s'endormir, les joues rouges, on ne peut manquer de se dire que cette image reste le prototype de l'expression de la satisfaction sexuelle dans l'existence ultérieure. » C'est-à-dire, il indique qu'il y a comme une sorte d'empreinte de base concernant la jouissance, le plaisir, la satisfaction, etc., qu'on peut trouver déjà chez le bébé et qui vous a déjà été un peu expliqué par Marie-Élisabeth et les autres. Alors, partons de l'exemple de Freud, les étapes de nourrissage. Il y a quatre étapes. La première, c'est qu'il y a de toute façon un besoin d'autoconservation, le besoin des pulsions d'autoconservation, une faim tiraillante, ça c'est la première étape, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une pulsion au départ. Plus tard, ça va donner d'autres pulsions, mais au départ, il y a ce besoin d'autoconservation. C'est la première étape, et il faut qu'elle soit présente. Ce qu'on verra chez les adultes, la problématique adulte, c'est quelquefois, il y a un barrage sur la pulsion, une impossibilité de percevoir la pulsion. Deuxième étape, ce besoin d'autoconservation, ce besoin de se nourrir, ce besoin de recevoir du lait, d'être nourri, est satisfait par le sein ou par le biberon, et à ce moment-là, il y a du plaisir, un plaisir d'abaissement de la tension. Le plaisir, c'est l'abaissement de la tension. Et c'est aussi le fait que ça touche une zone érogène ou que ça érotise cette zone, la bouche. Donc, deuxième étape, la satisfaction de ce besoin de base amène du plaisir, l'abaissement de la tension, une érotisation. Et troisième étape, toujours dans la réponse à ce besoin, l'enfant qui vient de se nourrir, qui a le ventre plein et qui s'endort les joues rouges, en fait, il a une sensation de plénitude, de réplétion, c'est-à-dire d'avoir le ventre plein. Autrement dit, il y a quelque chose de son corps qui lui indique que c'est bon, que c'est fini, que c'est bien, qu'il est dans un état apaisé, etc. Et quatrième étape, en fait, tout ça est mêlé, évidemment, mais ça, c'est pour l'histoire de clarifier les choses. Il y a en même temps, durant ce moment où il est en train de se nourrir, d'apaiser son besoin et de se sentir plein, la possibilité ou non d'intégrer un objet satisfaisant, c'est-à-dire d'intégrer une mère qui le regarde avec plaisir, qui le nourrit avec plaisir, etc. Autrement dit, cette quatrième étape qui suppose le lien avec l'objet satisfaisant est celle où il y a l'intériorisation du bon objet et la fusion avec cet objet qui est lui-même satisfait. Autrement dit, c'est une étape beaucoup plus psychique. Ça veut dire qu'on passe du plus corporel au plus psychique. Mais qu'à la limite, il pourrait y avoir aussi une non-intégration d'un bon objet. Mettons qu'on ait affaire à une mère absente, à une mère morte, à une mère qui est possédée par un deuil, le deuil de son frère, ou qui ne voulait pas de cet enfant, ou qui est rejetante, etc. Qu'est-ce que va absorber le bébé à ce moment-là? C'est un mauvais objet. Autrement dit, il va être leurré entre, d'un côté, le plaisir d'avoir été nourri, d'être satisfait, de ne plus avoir à se remplir, et d'un autre côté, quelque chose qui est rentré en lui, qui est du mauvais objet. Et là, à ce moment-là, il ne sera pas dans la satisfaction. Il aura eu le plaisir, mais il n'aura pas eu la satisfaction. Donc l'enfant si ça se passe bien, et la plupart du temps c'est le cas, il est en train de vivre l'abandon dans le bien-être, l'abandon dans cette empreinte de base qui réunit les quatre brins de la tresse du plaisir et de la satisfaction réunis. Et on verra après qu'il y a aussi des complexités à tenir en compte, c'est que en réalité aussi l'abaissement de l'attention, de la pression pulsionnelle et du désir du besoin s'accompagne du sommeil. L'enfant, il s'endort. Ça veut dire qu'il s'accompagne d'un principe de nirvana freudien qui abaisse l'attention presque de la pulsion de mort, c'est-à-dire le retour à zéro, quelque chose qui pourrait aller jusqu'à la pulsion de mort, rester éternellement dans le nirvana passif, n'avoir plus jamais besoin de rien. Hein? Donc ça, c'est les quatre points, la mise en place de la tresse de base, qu'on va retrouver chez l'adulte, c'est-à-dire la nécessité de la pulsion, la nécessité d'une réponse à cette pulsion, la nécessité d'un lien avec un corps suffisamment plein, suffisamment satisfait, et la nécessité du lien avec l'autre. Une fois que l'enfant a fait N fois cette expérience, c'est-à-dire que N fois il a fait le passage besoin, plaisir, répression, satisfaction d'être dans une bonne relation d'amour avec sa mère, etc. Une fois qu'il a vraiment fait souvent cette expérience, il va progressivement intégrer, intérioriser tout ça. C'est ce qui va créer du coup, ça va être la suite développementale de cette mise en place de la tresse de base, c'est que ça va permettre l'apparition de la représentation. Alors voilà comment ça se passe. Ça se passe, l'enfant a faim. Dans un premier temps, après avoir expérimenté plusieurs fois comment il est satisfait par sa mère au moment où il a faim, dans un premier temps, il va tenter de se satisfaire d'une façon hallucinatoire. C'est-à-dire qu'il va imaginer le sein, il va imaginer qu'enfin il est rempli, il va imaginer, puis il va aussi faire des tentatives auto-érotiques, il va prendre son pouce, etc. On a les bases du fantasme érotique par exemple plus tard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tente de calmer le besoin et la pulsion par de l'hallucinatoire et par le recours à l'auto-érotique. Mais évidemment, ça ne suffit pas, parce que t'as beau halluciner que t'es nourri, au bout d'un moment, ça commence à devenir vraiment pressant, quoi. Il y a besoin d'être nourri réellement. Donc, le passage de la tentative hallucinatoire et du plaisir auto-érotique va construire progressivement la représentation de l'objet manquant. C'est pour ça que, d'une certaine manière, vous verrez ça dans tous les écrits psychanalytiques, il y a le manque de l'objet qui est la création de la première représentation de l'objet, qui est la construction de cette première représentation. C'est-à-dire que tant que l'objet est là et qu'il est satisfaisant, il y a à peine besoin de se le représenter. Alors que là, il y a une tentative hallucinatoire de le faire venir et puis il ne vient pas. Donc il y a une représentation intérieure, une recherche de réaliser ça par l'hallucination, mais ça ne marche pas. Et ça va déboucher après l'hallucination et après la représentation sur ce qu'on appelle l'instauration de la pulsion d'emprise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va dire « je veux prendre l'objet, je veux l'attraper pour avoir enfin ce dont j'ai besoin ». Donc le courant libidinal à ce moment-là s'oriente clairement vers l'extérieur à la recherche de l'objet. Et c'est l'instauration de la pulsion d'emprise. Emprise qui se manifeste pas seulement par... Alors, comme dans le documentaire dont parlait Christine tout à l'heure, où on voit qu'il s'accroche au sein, mais pas seulement, c'est aussi emprise par le regard, c'est emprise par l'ouïe, faire attention au bruit, c'est l'emprise par la motricité, bien sûr, et peut-être, du coup, est-ce que c'est une des bases de la curiosité aussi, qui est une tentative d'emprise sur l'objet pour au moins avoir la satisfaction. Donc, on voit bien les quatre points de la tresse de base. Ensuite, comment ça crée la possibilité d'une représentation, comment ça instaure la pulsion d'emprise pour tenter d'avoir l'objet qui va satisfaire la pulsion de base. Or, on verra ultérieurement qu'il peut y avoir un conflit entre ce courant d'emprise qui est tourné vers le plaisir et vers la satisfaction du besoin et le courant de la satisfaction. Parce que peut-être, on peut violenter l'objet pour prendre le plaisir dont on a besoin, sans forcément trouver la satisfaction de cet échange partagé d'amour et de choses comme ça. Donc, ce qui apparaît, c'est pas forcément simple à gérer, c'est que la pulsion d'emprise est active, mais en vue d'un but passif, qui est finalement de se laisser aller enfin repu dans le principe de nirvana, et qui inclut d'ailleurs cette passivité, la dépendance à l'objet. Donc il y a quelque chose là qui peut être source de difficultés, et on va voir ensemble, il y a réellement des gens qui sont dans le plaisir et qui n'arrivent pas à la satisfaction. Mais il peut y avoir aussi, et c'est plus rare, mais ça arrive aussi, des gens qui sont dans la satisfaction sublimatoire ou dans d'autres domaines, et sans plaisir. On verra. Donc, si on suit la ligne, à partir de ce moment-là, il y a une apparition de la représentation, et il y a en même temps l'investissement du corps, c'est-à-dire le renouvellement des quatre moments, des quatre fils de la tresse qui relient le plaisir et la satisfaction, ces temps qui mêlent la pulsion, les trois premiers points, enfin les deux premiers, et la relation d'objet, eh bien ça constitue l'établissement de deux niveaux parallèles et reliés qui sont d'une part une bonne habitation du corps. Je suis bien dans ce corps qui est repu et qui est plein de satisfaction, et une représentation interne d'un objet bon. Et les deux vont ensemble. Ces deux points, d'ailleurs, sont d'une importance capitale dans les cures. La possibilité d'avoir un bon objet interne et la possibilité d'habiter son corps comme étant un lieu bon. C'est ce que Winnicott appelle la personnalisation. Quand Winnicott parle de la personnalisation, il indique que ça veut dire que la psyché s'est installée correctement et bien, et avec confort, dans le corps. On est dans un élément fondamental, le lien entre le corps et le mental, la possibilité de faire confiance à son propre corps, du coup la possibilité de faire confiance à son être global, et d'être avec un bon objet interne. Vous voyez qu'il y a énormément d'enjeux sur le fait de pouvoir être capable d'avoir une satisfaction correcte, qui va intérioriser un bon objet interne, mais qui lui-même sera intériorisé parce que ça s'appuie aussi sur les éléments corporels. C'est-à-dire, il y a un lien étroit entre avoir un bon objet interne et avoir une bonne relation avec son propre corps. Et c'est pas pour rien que tous les gens clivés dont on a parlé jusqu'à présent ont justement à la fois une difficulté à se relier à leur propre message corporel et un déficit de bon objet interne. Ces deux points, la bonne habitation du corps et la représentation interne d'un objet bon, sont reliés et sont sous le signe de l'empreinte psychique de la satisfaction. Et la satisfaction, c'est quoi ? C'est le moment où les quatre fils sont reliés en une tresse, c'est le moment où la pulsion est apaisée, mais où corollairement, le lien avec l'objet est si étroit que les deux sont fusionnés. Il y a quelque chose comme une sorte de fusion à ce moment-là, hein, sous le signe du bonheur partagé. L'enfant qui s'endort, les joues rouges et le ventre plein, il est fusionné à la mère qui désormais est à l'intérieur de lui, mais qui en même temps était à l'extérieur. C'est-à-dire il y a quelque chose comme une sorte d'intériorisation du bon qui suppose le passage par la fusion. Et s'habiter soi-même ultérieurement avec bonheur passe par la mise en place de ce socle de base. Et on va voir que la plupart des éléments de psychopathologie vont justement faire référence au fait qu'il y a un déficit dans ces quatre étapes. Ces quatre étapes sont un peu antinomiques parce que les deux premières ont lieu avec le corps, la pulsion et la satisfaction de la pulsion. La troisième, c'est déjà à cheval entre le corps et l'objet, le ventre plein, le corps qui est satisfait, etc. Et la quatrième est totalement en relation avec l'objet. Or, il y a une possibilité que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Alors, observons les deux cas, les conditions bonnes, les conditions mauvaises. Conditions bonnes, ben, la mère est satisfaite. Alors, je vais vous lire un truc de Roussillon, il dit « La mère lui renvoie en miroir par son propre plaisir partagé et le reflet qu'elle lui donne du sien, une image de ce plaisir. C'est-à-dire, bon, il y a besoin de ça, quoi. Il y a besoin qu'on soit heureux de donner à son enfant et qu'on le regarde et qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon, etc. Il y a quelque chose comme ça qui, du coup, favorise l'intériorisation du bon objet. Mais ça favorise, d'une manière générale, et ça c'est un point capital aussi, le plaisir de l'intériorisation. Or, ce que vous avez vu dans tous les gens clivés, c'est à quel point ils détestent l'intériorisation. Parce que s'ils vont vers l'intériorisation, ils vont vers le mauvais objet. Mais du coup, ils sont coupés de leur insight, mais du coup, ils sont coupés de leur empathie, mais du coup, ils sont coupés de leur propre boussole interne, du coup, ils sont obligés de se repérer sur le mental qui lui-même part n'importe où et est possédé par des quêtes phalliques imaginaires, etc. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là le plaisir de l'intériorisation et le développement d'un bon lien avec la mère, ainsi que le développement d'un bon lien avec le corps. Et ce bon lien avec le corps va favoriser les auto-érotismes nécessaires pour l'utilisation de la boussole interne. Se voir, se sentir, s'écouter, percevoir ce qui se passe en soi, tout ça, qui sont des éléments fondamentaux de la perception de ce qui se passe en soi au niveau profond, donc de ce qui dit la vérité de soi, suppose une certaine habitation de son corps suffisamment bonne pour que les auto-érotismes soient perceptibles. Il peut y avoir un écart entre ce que dit le corps et ce que dit le mental. Il y a des gens qui sont tellement clivés de leur propre corps qu'ils ne perçoivent pas ça, hein, qu'ils ne peuvent pas percevoir. Donc, le sujet va pouvoir découvrir et stabiliser l'alliance du plaisir libidinal et du plaisir de relation avec un bon objet externe qui vient renforcer le bon objet interne. Ça, c'est quand ça se passe bien, quand les conditions sont bonnes. Il y a une intériorisation, il y a un plaisir de l'intériorisation, il y a un lien avec son propre corps, il y a une écoute de sa propre boussole qui en découle, etc., etc. Là, on est dans du billard, mais ça se passe mal, des fois. Et si ça se passe mal, alors là, il y a sacrément des conséquences. C'est-à-dire que l'enfant, il éprouve la satisfaction du besoin. C'est-à-dire, il est nourri. Donc il y a quelque chose qui s'apaise. Il éprouve le fait qu'il est rempli. Il éprouve un certain plaisir érogène. Mais il y a premièrement un déficit du bon objet interne et du coup même une habitation par un mauvais objet interne. Ce qui veut dire que je peux avoir du plaisir et pourtant à l'intérieur de moi il y a un mauvais objet interne qui va me pousser vers une vision schizoparanoïde du monde. Ça c'est un premier déficit grave. Deuxième déficit grave, il a une difficulté à habiter, à être dans une habitation sûre et tranquille de son corps. Ce qui va nous donner l'anorexie, l'hypochondrie, la perversion, tous les cas où justement la coupure avec le corps amène cette espèce de méfiance vis-à-vis du corps et de nécessité de passer autrement pour avoir son plaisir et pour tenter la satisfaction. Premier point, donc, déficit du bon objet interne. Deuxième point, déficit d'une habitation sûre et tranquille dans son corps. Troisième point, déficit de la perception et de la confiance dans sa propre boussole interne. Et donc, surcharge du mental. Et donc, surcharge du fantasme. Vous verrez, par exemple, alors on y reviendra tout à l'heure quand je vous parlerai plus spécialement des pervers, mais vous verrez, par exemple, chez les états limites, qu'il y a quelque chose qui est assez courant, où brusquement ils prennent des décisions impulsives, c'est ça qu'il faut faire, etc., qui sont complètement à côté de la plaque, qui sont les pires choses qu'il faut faire. Eh bien justement un peu comme si, étant coupés de leur propre guide interne, de leur propre corps, le soi habite à l'intérieur du corps, hein, étant coupés de ça, ils se guident sur n'importe quoi, et plus spécialement sur des fantasmes, ou sur des représentations qui sont purement mentales et qui vont les conduire à prendre des décisions tout à fait inopportunes. Alors c'est assez étonnant de voir des fois des gens, on sent bien qu'ils savent ce qu'il faut faire et puis qu'ils vont faire les pires choses, comme si brusquement ils décidaient autrement avec un autre niveau d'eux-mêmes. Donc, déficit du bon objet interne, déficit d'une habitation sûre et tranquille dans son corps, déficit de perception et de confiance dans sa boussole interne, surcharge du mental. Quatrième point, clivage entre le corps et le mental. et entre le plaisir corporel, pulsionnel, quand il existe encore, quand il n'a pas été barré par des interdits de culpabilité, et la satisfaction qui, elle, est plutôt psychique relationnelle. Or, c'est bizarre. Vous voyez, il y a une différence entre le plaisir qui prend ses sources dans le corps et la satisfaction qui prend ses sources dans le psychisme et dans le relationnel. C'est pas forcément relié. Et du coup, ce qui manque pour les gens qui sont comme ça, c'est que ça leur donne une sorte de nostalgie de la reliance fusionnelle. Puisque c'est comme si, par exemple, on va le voir tout à l'heure, ils étaient à la recherche du plaisir et d'un plaisir toujours plus fort, et que pourtant, ils sont en manque, en insatisfaction, il y a quelque chose qui a comme un vide, un trou, etc. Parce qu'il y a le plaisir, mais il n'y a pas la satisfaction. Et ça va donner des diverses addictions, les toxicos, etc. Parce que si tu ne peux pas trouver la satisfaction et la fusion avec le bon objet, tu vas chercher la fusion de tous les côtés, quoi. Y compris dans la drogue, dans l'alcool, dans n'importe quelle toxicomanie qui a pour but, les toxicos, ils ont un but très clair, c'est de casser les limites du moi, d'être fusionnel. Être fusionnel avec quelque chose, avec un monde imaginaire. Alors, vous voyez que on voit la mise en place de la tresse de base, les suites développementales qui sont l'apparition de la représentation et l'habitation dans le corps, la personnalisation. Dans les conditions bonnes, ça donne tout ce que je viens de vous dire, et dans les conditions mauvaises, on a beaucoup de problèmes, et c'est justement ces gens qu'on va voir en cure. Alors, continuons sur la différence entre le plaisir et la satisfaction. Pour moi, il y en a une, hein. Je pense que c'est deux choses différentes. Le plaisir, il est lié à l'organe physique, orgasme oral, orgasme anal, orgasme génital, ou alors il est lié à la pulsion, même si elle n'est pas clairement libidinale, comme par exemple la pulsion d'emprise. Il y a un plaisir à avoir de l'emprise sur l'autre et à le posséder comme un objet. Ça, c'est du plaisir, c'est pas de la satisfaction. Et on pourrait même dire que ce plaisir, de toute façon, il est probablement inscrit en nous-mêmes, puisqu'il a un lieu délimité dans le cerveau, comme l'ont montré les expériences avec les rats en 1954. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je vais vous lire quelque chose là-dessus. Par exemple, en 1954, il y a un type qui s'appelle James Holtz, qui a observé ce qu'il appelait un comportement d'autostimulation chez le rat. Une électrode qui avait été implantée dans telle région du cerveau, pour un courant donné et dans certaines circonstances, l'animal reproduit ce courant en actionnant une pédale, cela à raison de 50 à 100 coups par minute pendant des heures, en dépit de la faim, souvent jusqu'à l'épuisement. Et l'accroissement de ce courant entraîne dans certaines limites une accélération du rythme atteignant parfois la fréquence de 2 à 3 réponses par seconde. Donc c'est pour dire qu'on peut être addict au plaisir et au point d'en oublier même de vivre, quoi, hein. Donc, le plaisir, il est lié en partie, en bonne partie, à l'organe physique. D'une certaine manière, en tout cas, il est descriptible, il est mesurable, il est en rapport avec des actions observables. Le plaisir est sous la main, c'est le cas de le dire. Et il amène la décharge de l'attention. Le plaisir, il est lié à l'augmentation de l'attention due à l'excitation, c'est-à-dire... Quand la tension monte comme ça, il y a quand même quelque chose, on sent quelque chose de plus vivant. Hein. Le désir du plaisir, le plaisir pulsionnel, la tension pulsionnelle, dans un premier temps, est au service de la vitalité, de l'éros. Alors, peut-être vous savez que Sœur Emmanuelle, dans ses mémoires, a écrit qu'elle s'était masturbée activement pendant toute sa vie et que c'était un truc important pour elle. Et alors elle écrit, je cite...
Très bonne source.
J'ai mes sources.
On est dans les locaux par voiture.
Je me sentais libre, libre, corps, cœur et volonté. Donc, et c'est vrai qu'il y a un sentiment de liberté que vous connaissez, par exemple, à la phase phallique, au moment où l'enfant découvre qu'il a la possibilité d'avoir son plaisir par lui-même, il découvre la masturbation. Et à cette phase, c'est pas pour rien qu'on l'a fait la phase phallique, c'est qu'à ce moment-là, il a le sentiment qu'il est enfin, qu'il a le pouvoir, quoi. Il dispose enfin, à volonté, de sa source de plaisir, contrairement à la zone orale ou à la zone anale. Donc il y a à cette phase-là une espèce d'ivresse de puissance due au fait qu'on a le plaisir sous la main et accessible. Alors que la satisfaction, c'est une autre chose. La satisfaction, ça suppose en particulier le fait que l'idéal du moi et le moi sont suffisamment reliés. C'est-à-dire que le moi reçoit l'amour de l'idéal du moi parce qu'il fait bien les choses, entre autres. Hein. Bien sûr que c'est lié au bon objet interne, mais ce bon objet interne, il est souvent représenté par l'idéal du moi. Enfin, on va y revenir. Donc, sœur Emmanuel disait aussi... Toutefois, l'Eucharistie était pour moi une joie qui dépasse tout ce que les hommes peuvent m'offrir. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que la satisfaction, elle est liée à deux choses. Elle est liée au sentiment de fusion et elle est liée à la satisfaction du moi par le bon objet interne qui est renforcé par l'objet externe. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. On a besoin que de temps en temps, le bon objet interne reçoive suffisamment de bons de la part d'un bon objet externe investi, qui nous aime et qu'on aime, pour pouvoir renforcer le bon objet interne, qui lui-même va abaisser les attentes de l'idéal du moi, qui fait que le moi va être suffisamment tranquille par rapport à quelque chose qui d'habitude le chevauche hardiment et le fait souffrir. Donc on pourrait dire que ce renforcement de la satisfaction par l'objet externe avec lequel on est en fusion et qui est bon pour nous et qui est plein d'amour et de plaisir de l'autre, eh bien le renforcement du bon objet interne par cette expérience de fusion avec le bon objet externe va être une source de satisfaction profonde qui amènera une sérénité, une plénitude, lié au fait que l'idéal du moi va être abaissé, ou plus exactement, le moi va être rempli par ce bon objet interne et donc sera plus proche de l'amour de l'idéal du moi. Donc, vous commencez à apercevoir ce que je veux dire, c'est à quel point la satisfaction est essentielle. Mais c'est pas simple non plus, parce que la satisfaction, c'est lié à quelque chose du dedans. C'est dedans. En plus, c'est pas très facile à percevoir. Hein. Autant le plaisir est relativement facile à cerner. Par exemple, l'orgasme clitoridien est plus délimité, plus précis, plus pointu, plus sous la main, alors que l'orgasme vaginal est plus flou, plus vague, plus dispersé dans le profond du corps. Donc, autant on peut décrire avec précision les réactions orgasmiques clitoridiennes, alors que la description orgasmique vaginale reste floue et appelle des métaphores poétiques, quoi. Ben, parce que c'est justement cette question du dedans, ce qui se passe dedans. Or, ce qui se passe dedans n'est pas simple, et pas facile à percevoir, pas facile à mettre en mots, pas facile à conscientiser, c'est vague, et ça peut faire peur. On y reviendra, mais le dedans, c'est souvent une source de crainte, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Voilà, donc pour dire quoi ? Pour dire que le plaisir et la satisfaction ne sont pas du même registre et que l'un est plus facile à cerner que l'autre. Alors essayons de voir quel type de satisfaction il existe. Et qu'est-ce que suppose la satisfaction ? Qu'est-ce que suppose l'absence de satisfaction ? La satisfaction pleine, c'est l'idéal. Les quatre brins de la tresse sont reliés. Pulsion, plaisir lié à la décharge de cette pulsion, sentiment de plénitude et lien avec un bon objet auquel on se sent fusionné. Cette expérience est très importante parce que la fusion satisfaisante et complète avec le bon objet externe renforce et stabilise le bon objet interne. Bon, vous aurez reconnu sans difficulté ce qu'on vit dans les premiers moments d'une relation amoureuse où tout se passe justement avec ces quatre fils reliés en permanence et où la satisfaction est intense, puisqu'on a à la fois le plaisir, le sentiment de plénitude et le rapport avec un bon objet externe qui vient nous renforcer narcissiquement et avec lequel on est bien. Mais il peut y avoir, et c'est plus rare, il peut y avoir des satisfactions qui sont amputées du plaisir. Alors, je vais vous donner un cas, mais en fait, on trouve assez souvent ça dans les extases mystiques ou les choses comme ça, qui sont comme une façon d'être fusionné avec un bon objet idéal, avec une satisfaction merveilleuse, et pourtant coupé du plaisir corporel, et qui est presque comme une espèce de satisfaction hors sol, quoi. Et avec beaucoup d'inconvénients. Sans les mains. J'avais une patiente qui était un peu dans ce goût-là, c'est-à-dire, bon, bien entendu, elle avait eu une enfance très difficile, une mère qui la battait, finalement c'est la grand-mère qui l'a récupérée, mais qui l'a raptée en faisant quasiment sa chose. Cette patiente a subi des attouchements par un homme à l'adolescence, etc. Bon, il y avait tout, quoi, il y avait la totale. Et elle se disait elle-même, je suis une anorexique du désir. Et c'était exactement ça. Et elle disait aussi, je suis dans une vie empêchée. Elle n'avait jamais eu de relation amoureuse, et par contre, elle a été bonne sœur durant une dizaine d'années au moins, avec un surinvestissement du mental et des tentatives de satisfaction sublimatoire et religieuse. Donc, le surinvestissement du mental qui se voyait par le fait qu'elle lisait constamment. Elle passait son temps à lire. D'ailleurs, elle avait une culture assez extra. Et plus tard, dans la cure, à un moment donné, elle disait « je veux me délivrer ». Sortir de tous ces livres. Bon, ces tentatives de satisfaction sublimatoire et religieuse, qui étaient effectivement réelles, qui lui donnaient d'ailleurs une belle densité humaine, hein, c'était une personne intéressante tout à fait, hein, malgré tout se payait d'une grande souffrance. Elle disait, c'est comme si j'avais un énorme trou dans le ventre et de nombreux symptômes. En fait, il lui manquait le lien entre la satisfaction et le plaisir pulsionnel, parce qu'il y avait un tabou sur tout ce qui était pulsion. Y compris pulsion agressive. Hein. Bien sûr, elle était bonne sœur. Donc gentille, douce, tout ce qu'on veut. Et je me rappelle d'une séance bouleversante où elle a découvert, grâce au rêve éveillé, aux différents messages du rêve éveillé, je peux à la fois aimer Jésus et avoir du plaisir avec un homme. Pour elle, c'était vraiment un virage, quoi. Et suivi, d'ailleurs, quelques temps après, j'en ai marre que les hommes ne soient séduits que par mon âme. Et d'ailleurs, petit à petit, à la fin de la cure, elle s'est inscrite dans une réalité sociale qui était plus en accord avec sa brillante intelligence. Mais on voyait vraiment ce qu'il y avait de mortifère dans cette satisfaction qui était une satisfaction réelle, mais coupée des racines pulsionnelles. Donc, je vais vous parler de la satisfaction pleine, mais il peut y avoir des cas de satisfaction amputée du plaisir. Et il peut y avoir des cas, bien entendu, et là, c'est le problème... problème important, d'une satisfaction absente. C'est-à-dire qu'il y a du plaisir, mais il n'y a pas de satisfaction. Si le manque de lien au bon objet externe, mais en fait le bon objet externe, il est relié au bon objet interne. Hein. Si le manque de lien est trop présent, alors post coitum omne animal triste. Vous connaissez la phrase latine. Après le coït, eh bien, la chair est triste, quoi. Hein. Donc il y a du plaisir, mais il y a un sentiment de manque. Et la solution adoptée par certains, c'est de faire plus de la même chose. C'est de rechercher toujours plus de plaisir, dans l'espoir d'enfin atteindre cette fusion bienheureuse avec le bon objet. Donc ça peut donner ou des addictions, addictions y compris sexuelles, ça peut donner une pulsion d'emprise exacerbée, qui veut faire de l'objet un reflet exact de ce qui est attendu pour qu'enfin il soit satisfaisant. J'ai un exemple d'un type particulièrement pervers. C'était une patiente que j'avais qui avait été obligée de se prostituer par un bonhomme vraiment sauvage et qui la tenait en la faisant chanter par rapport à sa famille. Bon, je ne vous détaille pas, mais par exemple, quand il, j'allais pas dire faire l'amour, quand il la baisait, il lui tordait les seins pour qu'elle gémisse, donc comme des gémissements de plaisir, sauf que là c'était des gémissements de douleur, au point qu'elle avait les seins tout bleus après, et il lui disait « Dis-moi que tu m'aimes ». Ce qui est quand même vraiment, on sent à quel point même un type comme ça, aussi pervers, aussi violent, aussi destructeur, était à la recherche de ce truc qui lui manquait, quitte à le faire jouer quoi, artificiellement par cette femme. Et en fait, continuons sur cette question du pervers, le pervers, il ne fait pas l'amour à une personne, mais il fait l'amour à un objet partiel qui est chargé de concrétiser le fantasme. Et alors, ce qu'on pourrait croire, c'est que le pervers, il est très possédé par ses pulsions. En réalité, il est coupé du corps et des pulsions. Il est en lien, non pas avec son corps et ses pulsions, il est en lien avec le fantasme. Et certains pervers sont obligés de recréer l'excitation par le mental avec des rituels très compliqués pour enfin atteindre l'orgasme. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne vient pas du corps, ça vient du fantasme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en fait, il n'éprouve pas de satisfaction. Parce que la satisfaction, ça suppose le désir de l'autre, ça suppose le désir du désir de l'autre. Et la joie de relier les différents éléments de la tresse. Le pervers, il n'éprouve pas de satisfaction et ça le fait beaucoup souffrir. Seulement, il masque sa souffrance à lui-même. Et souvent, les pervers prônent bruyamment leur perversion. Hein ? Les autres sont des cons s'ils ne savent pas à quel point c'est merveilleux d'être sadomaso. C'est vraiment le vulgum pecus, tous les autres qui ne comprennent pas à quel point c'est merveilleux. Très souvent, vous aurez, si vous avez l'occasion de discuter avec des pervers, ils ont vraiment quelque chose comme une sorte de comme une sorte de gloire de leur perversion qui en fait est une tentative pour en masquer la misère. Et la surenchère perverse qui toujours plus, ça donne l'impression qu'ils sont hypersexués alors qu'en fait c'est le contraire quoi. Des Casanova, des Don Juan, c'est pas forcément des gens qui sont liés avec leur pulsion, c'est au contraire des gens qui sont avec leur tête quoi. Et qui sont dans une tentative désespérée et vaine d'atteindre la satisfaction. Donc il ne leur reste que la pulsion d'emprise. En résumé, les pervers, condamnés à un plaisir bien peu pulsionnel et à une recherche de toujours plus de plaisir dans l'espoir d'atteindre la satisfaction, souffrent. D'où mon titre, La tristesse des condamnés au plaisir. Et ils souffrent de quoi ? Du manque de satisfaction, du risque permanent d'être possédé par le mauvais objet interne, et de l'impossibilité d'être en vraie confiance avec leur corps et leur boussole interne, d'où un déficit grave d'empathie, qui est typique des pervers. Ils ne peuvent pas sentir ce que l'autre, quoi, puisqu'ils peuvent même pas se sentir eux-mêmes. Et leur tentative pour avoir de la satisfaction, elle échoue parce qu'elle se heurte à la barrière du refus de l'expérience primaire de dépendance envers un autre détoxiquant et bon, quoi. Il faudrait supporter d'être dépendant de cet objet-là. Ce chemin leur serait possible en analyse s'ils acceptaient de reconnaître leur profonde souffrance. Or ça, c'est en général justement ce qui fait la différence. C'est qu'ils ne veulent pas reconnaître ni leur souffrance ni leur culpabilité. Et tant qu'ils n'ont pas la possibilité de percevoir leur profonde souffrance dont ils sont coupés, eh bien tout en eux est installé pour éviter de la percevoir, en particulier grâce au passage à l'acte et grâce à la surestimation du fantasme qui est censé représenter la réalité. Mais en même temps, ça nous est pas si étranger que ça, ces trucs de perversion. Parce que la coupure entre le plaisir et la satisfaction nous guette dans le couple. Dès lors que la satisfaction disparaît. Hein ? Mettons, par exemple, il y a des couples, on peut continuer à avoir du plaisir. On fait l'amour, on est habitué, on sait comment ça marche, on fait fonctionner la machine. Et pour autant, il n'y a plus cette espèce, il n'y a pas ou pas assez cette espèce de satisfaction. Ou l'inverse, il peut y avoir des couples, j'ai eu des cas comme ça, qui sont tous les deux dans la sublimation, dans faire un truc très satisfaisant dans un groupe mystique ou dans un groupe de je ne sais quoi, et qui ont pratiquement plus de vie sexuelle, et qui en fait, eux aussi, ils sont dans la satisfaction sans le plaisir. Eh bien, dans ces deux cas-là, le truc est dangereux, quoi. Il peut y avoir une tentative de surenchérir dans le plaisir triste, au besoin, en faisant même de son conjoint un objet partiel, et pourtant il y a du manque. La comparaison qui vient à l'esprit, c'est celle des vitamines. Par exemple, vous savez que dans le temps, il y avait, sur les marins qui partaient en mer, ils avaient le scorbut. Le scorbut, c'était quoi ? C'était le déficit de vitamine C. Ils pouvaient bien manger toujours plus de viande séchée ou de je ne sais quoi, il n'empêche que la petite dose de vitamine C qui n'était pas donnée leur manquait. Bien là, c'est pareil, on peut bien surenchérir dans le plaisir. S'il n'y a pas la satisfaction, il y a quelque chose qui manque. Ou surenchérir dans la tendresse et les satisfactions sublimatoires. Mais s'il n'y a plus le désir, s'il n'y a plus d'érotisme, s'il n'y a plus quelque chose de l'ordre du plaisir, là aussi, il manque quelque chose. Et on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Il faut les deux. Voilà, pour dire que cet étrange comportement des pervers nous est pas totalement étranger, même si on n'est pas pervers. Mais ça peut commencer à nous poser problème dès lors que le plaisir et la satisfaction sont séparés. Ceci dit, histoire de compliquer un peu, le plaisir et la satisfaction, ils ont tous les deux des freins intérieurs. Parce que le plaisir, cette élévation de tension qui pousse vers l'éros, vers la vitalité, etc., ça peut devenir mortifère lorsque ça devient une recherche compulsive, comme les rats dont je vous parlais tout à l'heure, ou comme certains malades qui ont des masturbations compulsives à longueur de journée, ou certaines personnes qui ont eu des problèmes au cerveau, etc., qui sont là tout le temps, ils ont le plaisir d'organes, mais il y a quelque chose qui devient mortifère. Et à la limite, il peut aussi ne pas y avoir, comme dans le cas de Marie-Élisabeth, moi j'ai eu une patiente aussi comme ça, même pas de plaisir d'organes. C'est-à-dire, moi j'avais une patiente qui n'avait aucune sensation clitoridienne, rien, mais rien. Et la seule chose qu'elle ressentait, c'était quand elle se faisait sodomiser et qu'il y avait quelque chose du dedans qui était plus ou moins douloureux et qui au moins donnait un sentiment de plaisir, quoi. Donc vous voyez que le plaisir, il a son frein en ce sens qu'il peut devenir mortifère. Et la satisfaction, elle a aussi ses freins et ses limites, elle a deux limites. La première, dans l'enfance, c'est l'interdit de l'inceste, qui se manifeste par des interdits de la part des parents sur la pulsion d'emprise. Baisse les yeux, regarde-moi pas, viens pas me regarder quand je suis à la salle de bain. Arrête de me tenir comme ça, viens pas écouter ce qu'on est en train de dire. Il y a quelque chose comme une sorte de limite saine à la pulsion d'emprise, qui est l'interdit de voir, l'interdit de toucher, l'interdit de prendre de force, qui est en somme une limite qui dit l'interdit de l'inceste, mais qui plus tard chez l'adulte gardera des traces, c'est-à-dire qu'il y a un certain dégoût pour les zones corporelles trop animales, trop chargées d'odeurs, qui peut être issu de cet interdit de l'inceste d'enfant, hein, de la floraison des parfums. Donc l'interdit de l'inceste est une des limites de la satisfaction. Et l'autre interdit, c'est le danger de rester coincé dans la fusion. Parce que si c'est merveilleux cette satisfaction, pourquoi bouger? On va rester dans le nirvana, etc. Et en fait, comme c'est trop dangereux, eh bien, il y a une partie qui se protège de ça par la honte du désir ou par la honte de la passivité que ça suppose. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a des manques, quoi. Donc on peut dire que même si on a bien du plaisir et même si on a bien de la satisfaction, il n'empêche qu'il y a quand même des limites internes au plaisir et à la satisfaction. Bon, rapidement, un truc sur l'inquiétant dedans. Le dedans est une zone inquiétante pour chacun des deux sexes. Ça se voit particulièrement dans les fantasmes qui concernent le dedans du ventre féminin. Hein, le ventre féminin, c'est un mystère, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe dedans? Il sort des choses, il sort l'enfant du ventre, il sort du sang du ventre, il sort des choses mystérieuses. Donc il y a quelque chose qui est inquiétant dans l'intérieur du ventre féminin. Il y a le fantasme du vagin denté, il y a le voyeurisme de ce dedans avec le spéculum comme une façon de tenter de savoir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans. Et en fait, les deux sexes ont une espèce de crainte du dedans, plus spécialement du dedans féminin, mais d'une façon élargie ensuite, du dedans en général. Ce qui peut donner chez l'homme, par rapport à ce ventre féminin mystérieux, soit l'ardeur à le détruire, à le sadiser, pour être sûr de s'en différencier, le machisme, le sadisme, le contrôle obsédant, soit le désir de le protéger. Protéger les femmes. En fait, en protégeant les femmes, c'est protéger son dedans. D'où le succès des femmes-enfants, par exemple. Il n'y a rien de plus séduisant que les femmes-enfants, parce qu'on va les protéger. En fait, en les protégeant, on protège quelque part son dedans. Hein? Donc, le fait que le dedans est une zone inquiétante a des conséquences négatives qui sont qu'on a là aussi une difficulté supplémentaire pour écouter les messages et les signaux intérieurs qui peut venir du dedans. Donc, du coup, ça peut encore être un peu un frein pour une pleine satisfaction. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus, parce que sinon, on en aurait encore pour une heure. En conclusion, d'abord, une petite incise, c'est que notre culture favorise plus particulièrement avec Internet, avec les images, avec la télé, etc., le clivage plaisir-satisfaction. Parce que le plaisir voyeuriste, le plaisir, il est facile à atteindre. La satisfaction qui suppose d'aller au contact avec un être véritable, avec qui on va être dans une véritable relation, c'est autre chose. Or, tout dans notre culture pousse du côté du plaisir, mais pas de la satisfaction. La comparaison que j'ai, c'est comme si on était gavé de bonbons. Mais être gavé de bonbons, ça donne pas au corps les éléments vitaux nécessaires. Hein ? Et la base stable, eh bien, c'est pas dans les images qu'elle se trouve, c'est en intra, c'est dans le bon objet interne. Donc le but d'une cure analytique, plus spécialement rêve éveillé, mais d'une cure analytique en général, le but d'une cure analytique, c'est justement de restaurer les bases mêmes du psychisme. Donc je vous relis la phrase dans Yeux que j'aime bien et que je cite assez souvent. Une définition possible de la cure psychanalytique, celle de permettre aux patients de faire des expériences archaïques, fondamentales, constitutives de la psyché, du moi et du penser, qu'il n'a pas eu l'occasion de faire dans son expérience naturelle. Dans ce sens, la possibilité pour le patient de relier la tresse du plaisir et de la satisfaction passera par trois choses qui sont capitales dans une cure. Une autorisation au plaisir. Levée de la culpabilité, travail sur la castration, gestion du pulsionnel, gestion de l'Œdipe, etc. Hein, toutes ces choses-là de base, qui en fait amènent à une autorisation au plaisir. Un peu comme dans le cas dont parlait Marie-Élisabeth. Il peut être sur son cheval et il peut draguer des femmes. Et c'est la cure qui lui permet ça. Hein. Donc, une autorisation au plaisir grâce à la levée de la culpabilité, au travail sur la castration, à la gestion du pulsionnel et au travail sur l'Œdipe. Premier point, une autorisation au plaisir. Deuxième point, le triomphe du bon objet. Car la satisfaction vraie passe uniquement par là. Or, qu'est-ce qui se passe dans une cure si ce n'est le triomphe du bon objet ? À travers les expériences émotionnelles correctrices du fait du contre-transfert où on ne joue pas le jeu et où on amène autre chose à la place, et à travers la bienveillance maternelle de fond du psychanalyste rêve éveillé et les rêves éveillés restaurateurs. Donc, une autorisation au plaisir, le triomphe du bon objet, et troisièmement, la sécurité concernant ce qui vient du dedans et le respect des messages issus de cet intérieur. Or, qu'est-ce que fait le rêve éveillé ? Eh bien, justement, il fait ça. Puisque, au fur et à mesure du travail sur le rêve éveillé, la personne, elle s'aperçoit qu'une vérité d'elle-même se situe ailleurs que de ce que se raconte son mental. Et du coup, elle va prendre l'habitude d'écouter et de symboliser ce qui est en train de se dire à l'intérieur d'elle-même, du dedans. Autorisation au plaisir, triomphe du bon objet et sécurité concernant ce qui vient du dedans me paraissent recouvrir la plupart des cures, que ce soit œdipienne ou que ce soit identitaire narcissique. L'atteinte de ces trois points signe une analyse réussie, de mon point de vue. Et je terminerai en disant qu'à la lumière de ce travail qui a été extrêmement intéressant pour moi, je crois qu'on pourrait rebaptiser principe de plaisir en principe de satisfaction. Voilà.